France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Une conversation consacrée aujourd'hui à Sinan Antoun, écrivain, poète, intellectuel irakien, et à son roman « Comme un parfum de lavande », traduit de l'arabe par Simon Cortet et publié aux éditions Sinbad, Actes Sud. Bonjour Sinan Antoun.
Bonjour.
Sinan Antoun, vos propos seront interprétés de l'arabe par Mohamed Hossein. Et à vos côtés, Farouk Mardembeh.
Bonjour.
Éditeur du domaine arabe chez Sinbad depuis 1995, figure majeure de la diffusion des littératures arabes en France, traducteur et essayiste. On vous doit notamment des livres de gastronomie, dont le fameux La cuisine de Zeriab, publié en 2002, Le traité du pois chiche ou de l'aubergine, ou l'essai Dans la tête de Bachar el-Assad, coécrit avec Ziad Majed et Sobhi Hadidi, qui reparaît en poche dans la collection Babel. Sinan Antoun, soyez le bienvenu parmi nous. Vous êtes né à Bagdad en 1967. Vous quittez l'Irak en 1991, après la première guerre du Golfe. Aux États-Unis, vous devenez universitaire à l'Université de New York. Vous êtes cofondateur de la revue Jadalia et vous êtes l'auteur de 5 romans dont sont parus en français aux éditions Sinbad, dirigés par Farouk Mardembeh, ici présent. Seul le Grenadier, en 2017, traduit par Leila Mansour, qui vous a valu le prix de la littérature arabe. Puis en 2018, Ave Maria, traduit par Philippe Vigreux. Et il y a peu, Comme un parfum de lavande, traduit par Simon Cortet. Votre œuvre creuse la mémoire irakienne contemporaine entre guerre, exil, poésie et perte. Comme un parfum de lavande s'ouvre sur une scène très forte à Brooklyn où l'on rencontre un personnage nommé Sami. Qui est Sami, Sinan Antoun ?
Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous tous les deux. Sami est un homme dans ses années 70 qui a quitté l'Irak après toute la violence qui a été causée par les milices. Il a été exposé aux violences. Il y a eu à son égard plusieurs tentatives d'assassinat. Lorsqu'il se rend aux États-Unis d'Amérique, Sami découvre petit à petit qu'il perd sa mémoire en raison d'une démence de vieillesse.
Alors, il habite chez son fils à Brooklyn. Et cette première scène, elle est extraordinaire parce que vous parvenez à nous montrer, ou en tout cas à nous faire ressentir, ce que peut être la perte de tout repère dans un monde qui vous devient soudain complètement étranger.
C'est vrai. Il a, en quelque sorte, il vit un double exil. Il se réveille aux États-Unis, il ne reconnaît rien autour de lui. Il s'accroche à ce qui lui reste de mémoire concernant son passé. Il veut revenir à Bagdad, mais évidemment, il est à Brooklyn. En même temps, cela symbolise également la perte de la mémoire politique. Sami représente quelque chose que beaucoup d'Irakiens vivent à l'étranger, à l'exil. Pas seulement aux États-Unis d'Amérique, des Irakiens qui sont attachés à une période précise de ce passé, intime et collectif.
Et on y reviendra par la suite sur ce rapport à l'Irak. Mais là, ce qui est très beau, justement, dans cette scène d'introduction, cette promenade perdue par un amnésique dans New York, c'est qu'il va rencontrer aussi différentes façons d'être arabe, notamment un épicier yéménite dont on sent, voilà, tout d'un coup une forme de proximité, mais qui n'est pas tout à fait réelle. C'est-à-dire comme s'il y avait des éclats un peu, justement, de cet Irak, des morceaux du monde arabe dans le New York qu'il traverse.
Oui, tout à fait. Il y a toujours ce sentiment de perte, de peur, car on ne connaît pas cette langue. Le peuple est nouveau, la population
est
pour lui. Et lorsqu'il rencontre un Yéménite, donc cette langue arabe lui donne cet espoir peut-être mensonger, fictif, en se disant peut-être je vais sortir de ce cauchemar.
Est-ce que la langue, et justement la langue arabe, est peut-être quelque chose, quand on est en exil, qu'on soit irakien, yéménite, qui vous permet une certaine forme de consolation, ou en tout cas de rapprochement imaginaire au pays perdu ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être l'une des racines, si j'ose dire, de ce roman, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même personnellement durant les premiers mois de mon arrivée aux États-Unis d'Amérique, au début des années 90, sans bien sûr la technologie de communication. Aujourd'hui, le pays arabe me manquait. Dans un restaurant, j'ai entendu quelqu'un parler arabe, mais avec l'accent irakien. Je me suis adressé à lui pour lui parler en arabe, mais j'ai été choqué. Il m'a répondu en anglais en me disant que « Monsieur, vous vous trompez, je suis américain, je ne suis pas irakien ». Donc j'ai essayé d'utiliser cette idée-là pour trouver un personnage à l'opposition de cette image-là. Quelqu'un qui cherche à gommer le passé pour créer une nouvelle identité.
Alors précisément, c'est le deuxième personnage du récit. On a vu Sami, cet homme qui perd la mémoire à Brooklyn. Et le deuxième récit, deuxième personnage important, c'est Omar, qui lui arrive de l'Irak aussi, aux États-Unis, mais dans d'autres circonstances. Il a été mutilé puisqu'il a déserté de l'armée irakienne. Et lui, au contraire, son amnésie, petit à petit, va être volontaire. Il va vouloir, de plus en plus, oublier l'Irak.
Oui, si la contradiction, le lien entre le pays et le passé, je voulais parler dans mes romans, il y a toujours un conflit, une confrontation, une compétition victimaire pour savoir qui a été le plus, qui a subi le plus des injustices entre les exilés et les réfugiés. Dans certains cas, quand on veut s'adapter dans une nouvelle société avec la présence du racisme, Omar, il ne voulait pas s'approcher de la communauté irakienne et surtout d'une communauté qui ne connaît pas vraiment le réel, la vie réelle en Irak. Donc sa seule évasion consistait à créer une nouvelle mémoire pour se débarrasser de toutes ces difficultés du passé et de l'Irak, avec tout ce lot de l'identité irakienne. Cette identité qui est pleine de blessures corporelles, mais aussi au niveau de l'esprit et de l'âme.
Et alors vous mélangez les deux récits, vous alternez les passages concernant Sami et ceux concernant Omar d'une façon qui paraît extrêmement naturelle, puisque ce sont des destins qui ne se croisent pas forcément, même s'ils proviennent du même pays lointain qu'est l'Irak, qui sont même dans les États-Unis eux-mêmes tout à fait séparés géographiquement, l'un à New York, donc l'autre à Détroit et ensuite dans le New Jersey. Comment est-ce que vous avez, vous, travaillé ce rythme, ce passage de l'un à l'autre, cet équilibre entre ces deux histoires ? Est-ce que tous les deux étaient présents dès le départ, dès le début du roman ?
J'ai essayé d'équilibrer la présence de ces deux personnages dans ce récit, dans ce roman. Il y a une dimension politique, morale, pour donner à chaque personnage la même marge de manœuvre, le même espace de parole, d'expression. Je ne voulais pas préciser quelle est l'histoire la plus injuste. Je ne voulais pas trancher. Donc j'ai essayé un peu de partir d'un récit à l'autre, d'un personnage à l'autre, mais de partir en crescendo. Et puis à un moment donné, les deux destins se croisent ou bien se confrontent en quelque sorte. Cette confrontation sur le plan esthétique est quelque chose de très beau. Cette confrontation est évidente entre ces deux personnages, entre une victime et une autre victime. Être confronté à cette réalité dure à accepter. Et beaucoup de sociétés cherchent à se débarrasser de ces réalités.
Mais justement, ces deux expériences extrêmement différentes de l'Irak qui les conduisent à deux réponses différentes dans leur vie quotidienne, qu'elles soient voulues ou non, mais aussi deux visions très différentes de ce que sont les États-Unis.
Oui, bien sûr, que ce soit le pays natal ou l'exil, le pays qu'on a choisi, on constate que l'expérience de l'être humain est régie par la classe à laquelle on appartient, est conditionnée par la situation économique, etc., etc. C'est quelque chose qui existait en Irak, mais même aux États-Unis d'Amérique. Les Irakiens aux États-Unis parlent du passé, ils parlent de la génération de bons gens. Mais il fallait poser la question, cette belle période de l'Irak, c'était pour qui était belle? Le pays était un paradis pour une classe en particulier, pour une élite, mais ce même pays, cette même période était l'enfer pour d'autres classes de la population irakienne. Et l'expérience de l'asile, de l'émigration, et vivre cette réalité est très loin de l'image qu'on a de l'immigration. Sami, lui qui appartient à une classe moyenne, qui parle anglais, il va arriver à s'adapter malgré ses difficultés du passé. Il s'intègre rapidement. Alors que Omar, qui appartenait en Irak à une classe plutôt pauvre, il n'a pas les moyens de la classe moyenne. Donc sa vie sera plus dure aux États-Unis.
C'est ma première visite depuis longtemps. Avant la chute de Saddam, on venait régulièrement pour faire imprimer des faire-part ou acheter des livres. Et on pouvait même se procurer le Coran.
C'est l'un des plus vieux marchés aux livres du Moyen-Orient. Ce vendredi matin-là, la foule est dense. Anas, 13 ans, déambule le long des étals avec son père.
J'aime bien venir ici. J'aime les livres et le fleuve au bout de la rue. J'achète des livres de magie et de poésie. C'est chouette ici. Vraiment chouette.
Je viens ici tous les vendredis, mais vraiment tous les vendredis. En fait, le seul moment où j'ai arrêté de venir, c'était pendant la guerre civile. Cette rue fait partie de notre héritage citadin à Bagdad. Et aujourd'hui, cette rue, elle est plus vivante que jamais. En plus, les livres ne sont pas chers. Malgré Internet et tout ça, les gens viennent ici pour acheter des livres. Regardez autour de vous.
Depuis 2003, les livres en langue étrangère ont fait leur apparition. On trouve de tout dans la rue Moutanabi, des livres neufs ou d'occasion, des livres de cuisine, des livres d'informatique, des manuels d'histoire. La rue est située dans le quartier historique de Bagdad. Un attentat en 2007 avait tué plusieurs dizaines de personnes et en 2008, elle avait été officiellement rouverte, mais il a fallu du temps pour retrouver la foule du vendredi. Aujourd'hui, il faut toujours se soumettre à une fouille de la police avant d'entrer dans cette rue. Mais les Bagdadis viennent de plus en plus nombreux. Balkis est venue avec sa fille, étudiante en magistère. Le marché du vendredi, c'est une tradition familiale.
J'aime bien venir. Ça me permet de me changer les idées et d'oublier les informations et tout le stress. Ici, je suis psychologiquement relaxe. L'ambiance est sereine. Les livres, les gens, tout ça, c'est relaxant. Cette rue, c'est notre rue. La rue de notre héritage, de notre culture. La rue qui représente la manière de vivre de Bagdad. Quand je viens ici, je me sens bien. Ça me rappelle Bagdad des années 70 et 80. Comme cette ville était belle. Avant, plein d'étrangers venaient à ce marché du week-end. J'ai des souvenirs ici.
La rue Moutanabi, c'est un peu aussi une vitrine de la vie intellectuelle de Bagdad. Les artistes, les professeurs ont chacun leur coin. Avec la rénovation de deux vieux bâtiments universitaires près de la place Keshla, la rue Moutanabi est à nouveau une ruche culturelle. Conférences, projections de films, expositions attirent une foule d'étudiants et d'intellectuels. La rue se termine sur le bord du fleuve Tigre. Les badauds aiment prendre des selfies avec la statue du poète Moutanabi. Ce poète du Xe siècle est un monument de la littérature arabe.
Nous venons d'entendre un reportage d'Angélique Ferrat, tourné à Bagdad, en Irak, au marché aux livres de la rue Moutanabi, pour France Inter en 2015. Sinan Antoun, alors je viens de vous ramener à Bagdad. Est-ce que vous avez acheté des livres à la rue Moutanabi, vous aussi ?
Oui, bien sûr. J'aimais beaucoup aller au vieux Bagdad, comme on dit, pour fuir le lycée. Mais je ne dois pas le dire, peut-être, pour bien reconnaître ma ville. C'est très important de connaître sa ville. Oui, j'allais souvent dans cette rue et actuellement, à chaque fois que je me rends à Bagdad, je vais à cette rue. La plupart des livres. Il y a des soirées organisées pour l'apparition des livres sont dans cette rue. Et c'est une occasion pour moi de rencontrer les lecteurs, ces premiers lecteurs irakiens. Je ne veux pas vivre loin de mes lecteurs. Il y a un roman intitulé « Fahres » dont le personnage principal est un vendeur de livres dans cette rue où il veut continuer à vivre, mais malheureusement, il n'a pas pu continuer.
Justement, Sinan Antoun, on a l'impression que votre œuvre, au fur et à mesure, vos livres en tout cas, sont un peu comme des morceaux de ce qui reste d'un Irak détruit petit à petit par les bombes et par la guerre, comme si vous essayiez un peu de faire une forme d'inventaire aussi de ce que fut et est encore aujourd'hui l'Irak depuis le lointain, un peu depuis l'exil, essayer de faire le compte des choses qu'on a conservées d'un pays en ruine.
Bien évidemment, je pense que beaucoup d'écrivains, de poètes font la même chose dans un pays comme l'Irak, la Syrie, la Palestine, ces pays qui ont été détruits, exposés, dont les pierres, les hommes, les lieux ont été détruits. L'écriture est capable de faire cela et c'est quelque chose en soi. Très important. C'est l'écriture cherche à sauver des personnages, des lieux, pour que ces personnages, ces lieux ne soient pas oubliés. Notamment en Irak, car malgré toute la dictature, ensuite l'occupation américaine, et en l'absence des institutions qui sont capables d'aider les citoyens à réorganiser cette mémoire collective, donc, petit à petit, on a assisté à cette confessionnalisation de cette histoire. Et c'est quelque chose de très dangereux. Ajouter l'aspect confessionnel à la mémoire, pour moi, ce que j'ai dit hier, c'est un devoir. On me dit, pourquoi vous parlez de la guerre ? Et pourquoi vous ne parlez pas plutôt de romans romantiques ? Mais pour moi, c'est une responsabilité sur mes épaules, une responsabilité importante ou plutôt une priorité dans la vie. La dernière phrase, beaucoup d'Irakiens, beaucoup d'Arabes apprécient l'écriture, s'amusent en lisant, parce que souvent l'écriture c'est une œuvre artistique, mais en même temps ils apprennent leur histoire à travers ces romans.
Alors, pour en revenir à Comme un parfum de lavande, Sinan Antoun, le personnage de Omar fait exactement le choix inverse, qui est de renoncer aux souvenirs de l'Irak, à la réalité de l'Irak, jusqu'à se faire passer pour portoricain. Il va finir par travailler dans une ferme avec des chèvres dans le New Jersey. Il a plaisir à avoir cette compagnie des animaux. Il renie à la fois presque la société des hommes, mais surtout les souvenirs précisément de l'Irak.
Oui, vous avez raison. Parfois, le passé devient un fardeau très lourd à supporter, notamment chez les immigrés, les réfugiés aux États-Unis d'Amérique. Comment peut-on expliquer aux Américains, pour un exilé, comment leur expliquer sa personne ? Parce que l'exilé va chercher un peu de comprendre la situation des exilés de façon superficielle, de façon plate, notamment après les attentats du 11 septembre. Pour un musulman, pour un arabe, il est tout de suite mis dans la case du danger. Et c'est la même chose pour moi quand je suis arrivé aux États-Unis d'Amérique dans les années 1991. Souvent, on lui pose des questions sur la dictature. Concernant le personnage Omar, son comportement est conforme au comportement des Irakiens que j'ai rencontrés moi-même. Pas seulement des Irakiens, mais d'autres réfugiés. Ces réfugiés qui changent leur nom, par exemple leur prénom, et cherchent à créer une autre histoire. Parce que ainsi la vie sera plus facile dans l'exil. Mais moi je sais toujours que les fantômes du passé rattrapent l'être humain et avec force.
Omar a été mutilé, on lui a coupé l'oreille. Puisqu'il a fui l'armée, il a déserté de l'armée irakienne. Et c'est la reconstruction possible de cette oreille qui devient une chose importante pour lui, extrêmement importante, de retrouver cette oreille perdue. Bien sûr, il y a un côté presque symbolique. On se dit qu'il veut retrouver quelque chose qu'on lui a enlevé, qu'on lui a retiré par la force et par la violence, quelque chose qui passe justement par le son, par l'ouïe, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas fermer malgré soi. Et donc c'est à la fois retrouver une façon d'être au présent que cette oreille un peu aussi un peu symbolique.
Tout à fait. Il y a le côté symbolique et vous avez 100% raison. Ce qui m'a attiré un peu dans cette tragédie de Omar, dont l'oreille a été coupée comme un châtiment en raison de sa désertion, bien sûr, c'est une douleur, mais tout à fait, vous avez raison, il y a ce côté symbolique, il s'agit de ce lien chez Omar, ce lien avec le passé, le présent et ce projet nouveau.
Et c'est aussi, bien sûr, une façon de porter sur soi éternellement la violence que vous avez subie, de voir cette oreille, l'absence de cette oreille dans la glace tous les matins. C'est, bien sûr, revenir à ce moment-là, revenir à l'Irak, comme si on portait toute sa vie la trace de cette violence, jusqu'à ce que peut-être on puisse vous la réparer.
Certainement. Les plaies. Les blessures, ou en quelque sorte, notre corps est la carte de plein de blessures. Omar découvre, comme tous, l'être humain parfois pense laisser tout derrière lui, se débarrasser de ce passé, il veut oublier son pays, qui est pour lui maintenant insignifiant. Il s'est débarrassé de la valise lors de son voyage de Bagdad à Amman. Mais petit à petit, il découvre que le cœur et la tête est une valise qui emmagasine beaucoup, beaucoup de choses.
Et on ne peut pas facilement s'en débarrasser.
Abadan. Jamais.
Sinan Antoun, Omar arrive aux États-Unis tout à fait légalement par le système de l'asile. Il devient réfugié. Et c'est peut-être aussi une dimension, même si elle est à la marge, peut-être dans le roman, qui est assez passionnante, de voir comment les États-Unis ont besoin, dans les années 90, d'accueillir quand même ces Irakiens, qu'il y a des dispositifs, des associations, des gens qui aident depuis les États-Unis ces réfugiés à parvenir jusque-là légalement.
Oui, tout à fait. C'était la réalité. C'était pas le gouvernement américain. C'était des associations comme Caritas ou d'autres organisations qui aidaient les réfugiés dans leur démarche. Cette politique vis-à-vis des réfugiés était née de la pression qui a été exercée contre le gouvernement américain, exercée notamment par les courants de gauche durant des décennies, durant des années. Et beaucoup d'Irakiens ont obtenu effectivement le droit d'asile pour des raisons humanitaires aux États-Unis d'Amérique.
Mais ça n'a pas empêché qu'après le 11 septembre 2001, on rende visite de façon assez peu aimable à tous ces réfugiés irakiens pour leur demander précisément s'ils avaient quelque chose à voir avec les attentats en cours. On voit bien la peur et la surprise de Omar quand le FBI vient lui rendre visite dans sa ferme du New Jersey pour lui poser des questions.
Ce que Omar a vécu, beaucoup de réfugiés aux États-Unis d'Amérique vivent et vivaient. Ils ont beaucoup d'hésités positives à l'égard des États-Unis d'Amérique, un pays qui est ouvert, qui est accueillant. Mais il suffit d'un seul incident, d'un seul événement où on se réveille d'un seul coup, comme Omar, où ils découvrent que les démocraties occidentales et que les États-Unis d'Amérique également sont menus des services de renseignement. Et lui, à nouveau, Omar, il est accusé. Seulement parce qu'il est musulman ou parce qu'il est arabe. Il découvre peut-être la naïveté, l'idiotie de ces services de renseignement américains. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et il y a une personne qui était ingénieur, mais il a été interrogé par les FBI et par la suite, il a quitté les États-Unis pour aller vivre au Canada. À New York, par exemple, des centaines d'Arabes et musulmans, hommes, ont été arrêtés sans aucune raison. La seule raison, ils sont arabes. Mais c'est une problématique qui existe dans toutes les sociétés. Mais aux États-Unis d'Amérique, oublie parfois les racines du fascisme. Et il se pose toujours la question, mais pourquoi tout cela? D'où vient tout cela? Mais il faut chercher les racines pour comprendre un peu comment les choses évoluent. Et Dieu seul le sait, comme on dit en arabe.
Ce qui est fascinant dans le texte, dans Comme un parfum de lavande, c'est que Omar, enfin les questions qu'on lui pose sont extrêmement simples et extrêmement naïves, effectivement. C'est est-ce que vous priez? Qu'est-ce que vous faites avec ce Coran? D'où vient-il et pourquoi? Des questions qui ont finalement assez peu à voir avec une quelconque possibilité d'une organisation terroriste réelle.
Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui me laisse toujours perplexe après toutes ces années. Je peux expliquer ça par un mélange de racisme, d'orientalisme. Je vais te donner un exemple. À l'université, quand j'ai commencé à enseigner à l'université de New York en 2005, l'un de mes collègues m'a dit « Sinan, ah, vous avez eu ce poste parce que vous êtes musulman ». Oui, je dis « Mais je ne suis pas musulman, j'appartiens à une famille chrétienne ». Et à chaque année, quand il parle de Sinan, il dit « Sinan, vous êtes musulman ». Et c'est quelque chose qui m'a mis en colère. Il me dit « Ça suffit, ça fait 20 ans que tu me dis Sinan, t'es musulman ». Mais je vous parle d'une personne qui a une thèse d'une université très réputée. Un autre ami, un romancier, paix à son âme, avait dit qu'ils nous regardent tous de la même façon, qu'on soit arabe ou musulman, peu importe. Ils nous regardent, ils nous mettent dans le même.
فتان راح ينا عنهما القمر عيناك حين تبسما تورق الكرون وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المذاف وهنا ساعة السحر ك
كأنما تنبض في غوريهما النجوم. مطر 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 مطر. أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ مطر 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 مطر. وكم كم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع، ثم اعتللنا خوف أن نلام بالمطر.
Abed Azri chantait Unshudatul Matar, le chant de la pluie, du poète irakien Bader Shakir Essayab. Je cite la traduction de Kazim Jihad Hassan. Sais-tu quelle tristesse distille la pluie? Comment à sa tombée se lamentent les gouttières? Comment s'y perd le solitaire, sans fin? Comme le sang versé, comme les affamés, comme l'amour, les enfants, les morts, c'est la pluie. Sous la pluie, tes yeux me portent à travers les flots du golfe. La foudre jette sur les rivages de l'Irak astres et nacres, comme si elle voulait précipiter la venue de l'aube. Mais la nuit la recouvre d'un drap de sang. Je crie au golfe, ô golfe, toi qui donnes les perles, la nacre et la mort. L'écho revient comme un sanglot, ô golfe, toi qui donnes la nacre et la mort. Sinan Antoun, oui, il y a Wahib al-Lu'lu et Wal-Mahal wal-Rada, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur, si je ne me trompe pas. Bader Shakir Essayab, c'est la grande voix peut-être de l'Irak du XXe siècle, en tout cas des années 50 et 60. J'ai l'impression qu'il est un peu là, donc comme un parfum de lavande.
Oui, certainement. C'est l'une des voix fondatrices de la poésie arabe moderne. On a appris ses poèmes par cœur à l'école. Ce qui est extraordinaire dans la poésie, c'est qu'au fil des années, on découvre de plus en plus une sorte de profondeur encore plus importante de ses poèmes. On découvre que la poésie est une source de science et non pas une source uniquement esthétique. La poésie forme la vision de l'être humain pour connaître la terre et l'histoire. Et à l'exil, dans les moments tristes et difficiles, j'avais toujours, j'étais accompagné par les poètes de Bader Shakir Essayab, de Mahmoud Darwish et à d'autres pour un peu dépasser ces moments de tristesse.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Farouk Mardembe, vous êtes l'éditeur en France de Bader Shakir Essayab et la traduction encore inédite que je viens de citer paraîtra, si je ne me trompe pas, l'année prochaine, c'est Sinbad, traduit par Kazim Jihad Hassan.
Oui, c'est la 13e traduction de Essayab. Il a été traduit il y a longtemps, dans les années 70, même à la fin des années 70, par le très regretté André Michel. Et puis par Salah Stéti et Kazim Jihad. Et là, Kazim a repris un peu tout son travail, et jusqu'à maintenant une vingtaine de poèmes. Il va continuer son travail. Et on a lu quelques poèmes à Lima, d'ailleurs, dans le cadre des Samedis de la Poésie. Et
les Samedis de la Poésie de l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Oui, et j'espère pouvoir publier ce livre à la fin de 2026.
Farouk Mardembe, est-ce que c'est important de retraduire, justement, pour qu'un poète continue à vivre en français ? Et est-ce que c'est important de se donner les moyens de poursuivre l'effort de traduction ?
Oui, et puis on sent toujours, en poésie, sans doute Sinan connaît ça, après avoir traduit un texte, 5 ans après, on a envie de retraduire, parce qu'on se rend compte qu'il y avait peut-être autre chose, ou parce qu'on l'a lu autrement, ou qu'on a appris des choses sur le poète. On a lu des critiques, on a lu des choses, et on a relu soi-même cette poésie, on a envie de la retraduire.
Et vous-même, vous êtes traducteur, est-ce que ça vous est arrivé de...
J'ai traduit justement quelques poèmes dans le temps, de Saadi Youssef par exemple, de ce grand poète irakien décédé il y a 2-3 ans, et je sens maintenant le besoin de reprendre cette traduction.
Farouk Mardembe, vous êtes l'éditeur de Sinan Antoun ici présent. Comment est-ce que vous placeriez l'œuvre de Sinan parmi celles que vous publiez dans cette littérature de l'exil ? Est-ce que ça existe encore, cette fameuse littérature de Mbanfa, littérature de l'exil arabe ?
Oui, d'abord, une bonne partie de la littérature arabe porte sur l'exil ou sur le refuge. C'est une littérature d'exilés et de réfugiés. Et cela a permis d'ailleurs aux auteurs d'explorer la confrontation entre l'exilé ou le réfugié et le pays d'accueil, et la culture du pays d'accueil. Une bonne partie des romans arabes, surtout ces dernières années, sont des romans d'exil, ou bien, bon, c'est une autre histoire, des romans de prison. Là, c'est une autre veine de la littérature arabe de ces dernières années, qui est ancienne relativement, mais enfin, ces dernières années, et pour cause. Et d'ailleurs, c'est très malheureux de le constater, aussi bien au Maroc qu'en Syrie, qu'en Irak, etc., qu'il y a cette littérature qui parle des tortures, des horreurs, des prisons abattoirs dans les pays arabes, etc. Et j'ai publié d'ailleurs des livres qui traitent de ce sujet.
Farouk Mardembe, vous avez rejoint les éditions Simbad à la fin des années 70, si je ne me trompe pas. Ça fait donc peut-être 40 ans d'édition pour vous.
J'ai commencé à travailler après le rachat de Simbad par Actes Sud en 1995. Mais je connaissais très bien Pierre Bernard, le fondateur de la maison Simbad. Au début des années 90, nous avons co-dirigé un salon du livre euro-arabe à l'Institut du Monde Arabe. Donc, quand il est mort en 95, Actes Sud a pensé à moi pour diriger la collection. Et depuis lors, j'ai publié, je ne sais pas, peut-être 400 livres.
Oui, voilà, donc mon chiffre n'était pas erroné. 95, ça fait 30 ans.
Ça fait 30 ans.
Quel est le grand changement que vous avez observé dans non seulement la littérature arabe peut-être en elle-même, ou le roman arabe principalement, mais aussi dans la réception de cette littérature en France ? Est-ce que c'est quelque chose qui compte plus maintenant qu'autrefois ?
Oui, je crois que la littérature arabe a creusé son sillon dans la littérature mondiale, grâce d'abord à quelques noms, et puis ces quelques noms ont ouvert la voie à d'autres. C'est-à-dire les quelques noms, c'est Naguib Mahfouz, par exemple. Bon, et le Nobel de Mahfouz en 1988 a fait que partout en Europe, on a commencé à traduire d'abord Mahfouz, puis de la littérature arabe. En France, le mouvement a été lancé plus tôt par les éditions Sinbad, justement, en 1972, par la traduction d'un roman de Mahfouz, puis par la traduction d'écrivains, de poètes, dont Sayyab, dont Adonis, etc. Bon, et ce qui frappe depuis déjà quelques années, c'est, je dirais, la libération de la littérature arabe, sa libération de la censure et de l'autocensure. Bon, on ne peut plus censurer la littérature parce que les moyens modernes de communication contournent toute censure. Bon, donc les écrivains se sont libérés de tous les tabous. Les tabous religieux, politiques, sexuels. Et c'est une chose évidente, aussi bien dans les littératures masculines, je vous dis, que dans les littératures féminines, qui est très abondante et très importante.
Est-ce que ça a changé justement dans les dernières années? Il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui écrivent en arabe?
Certainement, certainement. Il y a plus de femmes qui écrivent. Il y a déjà beaucoup plus de gens qui écrivent. Ce qui est étonnant ces dernières années, c'est le goût du roman chez beaucoup d'Arabes. C'est-à-dire, moi je connais beaucoup de poètes qui n'ont jamais pensé écrire des romans et qui maintenant se mettent au roman. Ou des essayistes. Bon. Ou bien des gens qui écrivaient, disons, ou qui voulaient écrire un récit autobiographique. Et puis cette autobiographie s'est transformée en roman. Bon. Je crois que les prix littéraires très généreux qui ont été lancés, surtout par les pays du Golfe, ont dû jouer un rôle dans cela. C'est-à-dire, c'est attrayant, vous savez, bon, c'est des prix 50 000 dollars, 100 000 dollars, 200 000 dollars, etc. C'est-à-dire, il y a une surenchère entre les pays du Golfe, une concurrence sur qui paie plus. Et c'est vrai que les prix littéraires ont commencé à rythmer la vie littéraire dans le monde arabe. On attend la longue liste de ce qu'on appelle le Booker Prize d'Abu Dhabi. On attend ensuite la sélection de 6 romans. Puis, bien entendu, le grand événement, c'est quand on couronne le lauréat.
Oui, Simbad a déjà gagné un prix, un de ses nombreux prix
arabes. De traduction. De traduction, deux fois d'ailleurs. Et une fois, à Abu Dhabi, une fois au Qatar, comme ça, il y a eu un équilibre entre les deux pays qui ne s'aiment pas beaucoup.
Mais Farouk Mardambe, est-ce que ce déplacement, on peut parler de déplacement du pouvoir un peu de la littérature du Caire, de Beyrouth, vers le pays du Golfe, transforme pas aussi la façon dont ces littératures sont perçues et vues ou lues ailleurs dans le monde?
Je ne crois pas. Il n'y a pas eu de déplacement. C'est-à-dire que les grands pays producteurs sont toujours les grands pays producteurs. Le phénomène, c'est l'extension géographique du domaine de la littérature de langue arabe. Du moment où tout le Maghreb écrit principalement en arabe aujourd'hui, y compris l'Algérie, c'est-à-dire on sait que peut-être 80% des écrivains algériens aujourd'hui écrivent en arabe. Bon, au Maroc c'est déjà fait, en Tunisie c'est le cas depuis très longtemps. Bon, d'autre part c'est l'éclosion d'une littérature aussi romanesque dans les pays du Golfe. Et c'est une nouveauté, relativement aussi. Il y avait quelques écrivains, il y avait quelques noms qu'on connaissait, au Koweït notamment. Et puis maintenant, non, il y a partout dans les pays du Golfe. Et je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, où il y a une littérature très importante et très active, et qu'on ne connaît pas malheureusement en France.
Et aussi très féminine. Est-ce qu'on pourrait ne pas imaginer d'un pays comme l'Arabie Saoudite, il y a aussi beaucoup d'écrivains femmes en Arabie Saoudite.
Raja Alem, par exemple, que nous avons traduit, et qui a été traduit aussi chez Stock, pour son prix Booker Prize, justement. Et là, j'ai fait traduire un livre d'un jeune écrivain qui s'appelle Aziz Mohammed, et qui est très étonnant comme roman, et très moderne, et qui montre une connaissance très profonde de la littérature mondiale.
Alors j'ai l'impression, Farouk Mardambe, qu'il y a quand même... Alors effectivement, ce panorama est très foisonnant en matière de création. En revanche, peut-être que le nombre de librairies et de lecteurs a plutôt tendance à diminuer dans le monde arabe.
Il n'y a pratiquement plus de librairies.
Voilà.
Il n'y a plus de librairies. Les livres se vendent dans les foires et les salons du livre. Bon. Et les éditeurs eux-mêmes se sont transformés en marchands ambulants. Moi, je connais des éditeurs qui passent leur vie à faire le tour des capitales arabes. Tel éditeur est un jour à Rabat, un mois après à Oran ou à Alger, puis à Tunis, à Abu Dhabi, à Doha, etc. C'est là que maintenant qu'on vend des livres, mais malheureusement, la librairie comme institution extrêmement importante et le rôle du libraire qui fait vendre, qui lit lui-même, qui est intéressé et qui diffuse en fait le livre, le libraire n'existe plus. Malheureusement, trop, très peu existe.
Et on a du mal à imaginer comment vivent les maisons d'édition justement avec si peu de canaux de diffusion.
Bon, la plupart des éditeurs vivent très difficilement, on le sait. Et il compte sur les prix, justement, parce que quand un auteur, aujourd'hui, quand un roman obtient un prix dans un pays du Golfe, il y a une part qui revient aussi à l'éditeur. Bon. Mais il faut dire, il faut reconnaître que le nombre d'exemplaires imprimés et vendus est ridicule. Vous savez qu'il n'y a pas un éditeur qui peut publier, même en Égypte. Un pays de plus de 100 millions d'habitants, bon, le premier tirage est de 1000 exemplaires. 1000 exemplaires pour un pays comme l'Égypte, quoi. C'est quelque chose d'inimaginable. En poésie, c'est 200, 300 exemplaires. Bon. À part quelques noms aussi, bien sûr. Mais la masse des écrivains souffre aussi du nombre très limité des livres imprimés et vendus.
Entendre la chanson irakienne, peut-être une des plus célèbres des chansons populaires irakiennes, Foghen Nakhel, une version de l'époque encore de la royauté. Foghen Nakhel, en haut du palmier, Sinan Hantoun, ces chansons populaires sont très importantes aussi dans Comme un parfum de lavande. C'est un peu une façon de trouver ce qu'il reste de l'Irak, ce qu'on conserve en soi, peut-être justement par cette oreille qu'on n'a plus et qui, malgré elle, nous fait encore entendre les chansons du pays perdu.
Oui, tout à fait. Je ne veux pas être universitaire dans ma réponse. Lorsqu'on regarde le pays est une terre, est un lieu, mais aussi est une pensée. Bien sûr, les archives, également le pays, c'est cette archive de chansons, de goûts, de plats. Et les chansons ont cette capacité de concentrer, pas seulement les émotions, mais également toute une période. Nous savons, quand on écoute tous, on a tous cette expérience. On écoute un petit morceau de chanson, ça nous ramène directement à un autre endroit. Concernant Sami, qui écoutait beaucoup de chansons, les chansons étaient peut-être ce dernier lien, ce dernier fil qui le liait à ce passé beau. Et quand je faisais mes recherches pour écrire ce roman, j'ai découvert qu'effectivement, il y a la musicothérapie, en quelque sorte, pour soigner la sénilité ou quelque forme de perte de mémoire. La musique est très importante après la perdition de tout.
Et les sens, en général, sont vraiment au cœur du roman. C'est un roman peut-être sur la perte. Comment est-ce qu'on peut tout perdre, mais conserver l'essentiel, qui est non seulement une mémoire sensorielle, mais aussi des sens, comme le sens de l'odorat, ce parfum de lavande, dont on va découvrir dans le texte son importance.
Nam ! Encore une fois, oui, tout à fait. Il nous arrive à tous d'oublier. D'oublier comment l'identité, le soi, est fondée. le soi, l'idée est fondée grâce à nos sens. C'est dans la construction du personnage, j'ai mis l'accent sur la lavande. Par rapport à Omar, après avoir subi cette opération pour restaurer son oreille et avoir cette stabilité émotionnelle, on a constaté que petit à petit, il commence à s'avancer dans la vie même économique où il a travaillé dans une ferme de lavande, où il vit cette vie de sérénité, de stabilité, grâce à la lavande, aux papillons, aux abeilles. C'est quelque chose qui symbolise l'horizon. Cette lavande même, c'est exactement comme un pays. Un pays peut être un paradis, mais peut aussi être un enfer. Cette même lavande peut rappeler à quelqu'un quelque chose du passé, peut-être lorsqu'un homme a acheté le premier parfum à sa femme. Dans le roman, la lavande va jouer un rôle structurel pour justement faire rencontrer ces deux personnages.
Oui, on ne va pas raconter tous les détails. Mais néanmoins, il y a aussi une mémoire de la violence dans les sens. Et notamment quand Sami se souvient d'un attentat à Bagdad par cette chanson d'Oum Kalsoum qui était là dans l'air hein, au moment où la plus grande violence s'est déclenchée.
C'est la tragédie pour laquelle on n'a pas vraiment une réponse. Comment les couleurs, l'essence, les chansons, les lieux, qui étaient des choses très intimes, qui symbolisaient la stabilité, la sérénité, le début de l'amour avec sa femme au début de la guerre, alors que la guerre détruisait tout, détruisait même l'idée même des choses et des objets. Et sa femme a été assassinée alors qu'il écoutait cette chanson dont vous parlez, de Oum Kalsoum. Depuis ce moment-là, cette chanson est définitivement liée à la destruction et non pas à l'amour. Mais ce qui est un peu extraordinaire, c'est que la sénilité, la perte de mémoire, c'est quelque chose de très pénible. Mais cette perte de mémoire efface la mémoire triste, mais garde quand même les belles choses. Et c'est ce que chantait Oum Kalsoum, c'est la bénédiction de l'oubli, parfois. Et je voulais citer ici un grand poète irakien, Saad Youssef, qui a été cité par Farouk. Il a écrit beaucoup sur les transformations que l'Irak vivait. Dans un poème, il expliquait qu'un Irakien, même s'il quitte son pays, des décennies plus tard, il continue à payer ses taxes ou ses impôts, en quelque sorte, d'être Irakien ou d'avoir appartenu à ce pays à travers ses mémoires pénibles. Donc, couper le cordon est parfois est impossible avec le pays natal.
Il faut dire quelque chose, Sinan Antoun, des personnages féminins dans Comme un parfum de lavande, qui sont des femmes étrangères, c'est-à-dire qui justement ne sont pas irakiennes, qui sont une américaine, l'autre Carmen, qui représentent peut-être une forme justement de possibilité d'une tendresse face à celui qui perd la mémoire ou à l'exilé qui se cherche une patrie.
Oui, c'est vrai. Mais il y a un autre personnage féminin, Ma'arib, qui est un personnage important. Mais bien évidemment, l'amour, c'est un baume pour toutes les blessures. Aimer un homme, aimer une femme. Pour Omar et Sami, c'est leur côté humain, positif. Et comme disait le grand poète Amr al-Qais, l'étranger est pour l'étranger un cousin. Carmen aussi voyait dans le personnage de Sami l'image de son grand-père. Peut-être c'est le teint, c'est la couleur des cheveux. Pour Omar aussi, lorsqu'il a rencontré une femme, peut-être cette femme a aussi des blessures concernant une rencontre avec un homme violent. Mais Omar aussi a ce souvenir avec une dictature violente. Pour les personnages, le roman est un refuge où la femme, c'est une tendresse qui donne l'espoir, est en quelque sorte une récompense ou une compensation. Et également, il faut comprendre, il faut accepter l'autre. Carmen accepte Sami et Omar avec l'autre femme, ils sont acceptés et compris.
Je voudrais pas qu'on ait l'impression que Comme un parfum de lavande est un roman sans espoir. Au contraire, derrière ce parfum de lavande et derrière la possibilité justement de tout perdre, même la mémoire, se cache une immense humanité, Sinan Antoun. Est-ce que c'est ce qui est pour vous la matière du roman, cette sensation que l'humanité existe et qu'elle est la même, qu'on soit irakien ou éleveur de chèvres dans le New Jersey?
Je pense à cette idée pratiquement tous les jours. Je pense à ces personnes qu'on rencontre partout, ces personnes qui continuent à vivre malgré les souffrances, malgré les peines du passé. Lorsqu'on parle de ce roman, peut apparaître comme un roman plein de tristesse ou de tragédie, mais également c'est le début de l'espoir de s'accrocher à l'amour, de s'accrocher à ces miettes ou ces débuts de l'amour. Nous avons parlé des miettes du passé ou le morcellement du passé et du pays, mais il y a également ces morcellements. Ça peut être une chanson, un parfum, etc.
Merci beaucoup. Merci Farouk Mardambé. Merci Sinan Antoun et merci Mohamed Hossein pour l'interprétation magnifique Comme un parfum de lavande, traduit de l'arabe par Simon Cortet et publié aux éditions Simbad. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet. Merci à Clara Gallivel à la technique aujourd'hui et un grand merci à Aurélie Marseille pour la préparation. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure pour la dernière fois, certes, mais vous aurez toujours la possibilité de réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site web de France Culture pour les siècles des siècles. Bon canapé, bonne lecture et bonne fin de journée sur France Culture.